Je t'ai envoyé un long mail, tu as vu, je te prends au sérieux. Donc je pense que c'est toi.
Une des raisons pour lesquelles je ne crois, je t'ai dit gentiment, que je ne crois absolument pas un seul des 19 avantages de ton fameux modèle Jacques. Je n'y crois pas. Tu peux pas me forcer à y croire, j'y crois pas. Et j'y crois pas, et je n'y crois pas tant qu'une chose très précise n'est pas produite, que j'explique dans ma lettre, que un seul scientifique ait publié un seul article dans une grande revue, une bonne revue à référer d'astrophysique, disant voilà, le modèle Janus, eh ben, ça explique un problème observationnel pour lequel il n'y avait pas d'explication. Ce jour-là, on te prendra, et pas seulement moi, au sérieux. Et c'est normal, c'est la science.
Alors, tu comprends bien que moi, j'aimerais quand même, depuis 6 ans, pouvoir présenter ça dans un séminaire. Or, toutes les portes sont fermées. Alors, là, l'explication, tu la donnes dans la première lettre que tu m'as envoyée. Et là, si tu veux, c'est une phrase qui est très importante. Tu écris pour tout scientifique normalement constitué, répondre à tes lettres même par une simple réponse de politesse serait une insulte à la raison et à la science.
Écoute, j'ai même parlé de toi un jour au directeur général du CNRS avec qui tu avais, qui est mort maintenant, mais qui tu avais de nombreux échanges, qui s'appelait Philippe Kourinski. Tu dois te rappeler de lui.
Oui.
Parce que Kourinski, il était directeur du CNRS il y a peut-être 20 ans. Il m'a parlé de toi avec une expression de terreur, littéralement. Il m'a dit, oh, Jean-Pierre Petit. Quand j'étais directeur du CNRS, c'était ma croix et ma bannière, c'était mon calvaire. Il y a déjà 20 ans, tu étais déjà le directeur du CNRS, te considéré comme vraiment un cas social. Il y a 20 ans. J'imagine que ça s'est pas amélioré depuis. Donc, c'est pour ça que te répondre, c'est incroyable, le niveau d'amour te répond. Il mérite un prix Nobel, je l'ai dit. Un prix Nobel d'amour, de tolérance.
Donc,
prix Nobel de la tolérance, niveau d'amour.
Moi, je préférais que tu me parles de Nash.
A commencé, donc à être contacté par la CIA en disant, voilà, il faut qu'on nous aide à déchiffrer les messages secrets parce que c'est un grand mathématicien. Et donc, on lui donnait des messages secrets à déchiffrer. Plus tard, il était persuadé que les extraterrestres s'adressaient à lui. Tu vois, il est avec toi directement dans le New York Times. Et il avait démontré qu'il y avait des messages extraterrestres dans le New York Times qui étaient destinés à lui, en fait, et dont il tirait un certain nombre d'informations. Mais surtout, pendant des années, il parlait de Charles Herman, donc son ami de classe de Princeton, qui était dans sa chambre. Et ce Charles Herman, c'était son meilleur ami. Sauf que personne n'a jamais vu, même quand il s'est marié avec sa femme. Il dit, ah, tu sais, j'ai reparlé de toi à Charles, il m'a dit que je pouvais t'épouser, etc. Et puis voilà. Et puis finalement, il est devenu de plus en plus schizophrène avec des problèmes psychologiques.
Alors, autrement dit, Nash était schizophrène. Et puisque tu fais une comparaison, ce que tu suggères, c'est que je suis moi-même schizophrène, c'est ça.
Je ne suis pas médecin, mais si tu veux, je ne connais pas les graves. Mais enfin, ce qui compte, si tu veux, c'est que Nash était quelqu'un d'extrêmement brillant qui tirait des conclusions de raisonnements qui paraissaient logiques, des conclusions complètement fausses. C'est ce qu'on appelle le délire logique.
Tu m'expliques que je souffre de délire logique et que je suis malade, c'est ça.
Mais non, non seulement tu as un délire logique, mais tu as des hallucinations auditives et visuelles, parce que c'est associé au délire logique. Et Nash a eu une hallucination auditive et visuelle bien plus grave que la tienne, c'est-à-dire que Nash était dans une situation où il a vu pendant des années quelqu'un qui n'a jamais existé, et cette personne lui a parlé, et je te dis, il l'a même remercié dans des articles scientifiques, tu vois, c'est vraiment le même, c'est un copier-coller en moins grave. Si
quand je reçois un coup de téléphone avec des gens qui me parlent, en fait, c'est pas vrai, et c'est une histoire que je me raconte, enfin, c'est ça.
C'est extrêmement probable. Disons que tu ne peux pas le savoir.
C'est extrêmement probable.
Mais tu gardes ça pour toi quand même. Parce qu'après, on va à Dambricourt pour montrer ce que c'est qu'un délire logique. Elle m'a montré un jour une affiche dans la rue, tu vois, de, je sais pas, Johnny Hallyday, Mian Farmer, c'est un grand truc. Et elle m'a expliqué que cette affiche était codée et qu'elle avait c'était un message de Mylène Farmer pour elle à Dambricourt, tu vois. Et donc, les amis d'Anne Dambricourt, dont moi, ont fait pendant des années, maintenant j'ai plus aucun contact avec elle, mais on a fait beaucoup d'efforts pour que ça sorte pas, parce qu'elle était Jean-Pierre dans la même maladie.
Voilà, exactement.
Voilà,
alors, maladie, si tu veux, je vais avoir 83 ans, donc si je suis malade, il est temps que j'en prenne conscience et que je me soigne. Alors, qu'est-ce que...
C'est pour ça que j'ai écrit, mon
alors, qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce que je dois faire, à ton avis?
Bah, écoute, déjà, déjà, tu dois essayer de réfléchir parce que c'est compliqué l'histoire de Nash. Regarde Nash.
Non, non, ne me parle pas de Nash. On a compris. Parle-moi de Jean-Pierre Petit. Voilà. Alors, allons-y.
Qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir? Ben, déjà, te dire que...
Tu es malade. Qu'est-ce qu'il faut faire? Explique-moi.
Déjà, prendre conscience, si tu veux, que toi-même, tu peux être malade. Déjà, c'est ça le premier truc. À mettre l'hypothèse sur la table. Se dire, moi, Jean-Pierre Petit, je devrais me poser la question, est-ce que les problèmes que j'ai eu depuis 20 ans, 30 ans, ne viennent pas en partie, pas totalement, de moi-même, Jean-Pierre Petit. Donc, faire une analyse, se poser la question, se dire, tiens, quand je fais ça, quand j'envoie des lettres à toute la planète, etc., est-ce que je passe pas pour un fou? Est-ce que c'est un comportement normal? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font ça, à part les filles, tu vois? Et si je suis rejeté, est-ce que c'est la faute des autres? Se poser des questions comme ça, tu vois? En gros, te remettre en cause, se poser, faire une espèce d'introspection.
Oui, mais ça suffit.
Toi-même, tout seul.
Mais ça suffit pas, Jean, ça suffit pas. La schizophrénie, ça relève de la psychiatrie. Bon.
Bien sûr.
Voilà,
bien
alors ton homme, Nash, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, bah, il a été soigné. Alors, explique-moi un peu comment. Alors, comment tu vois ça? Il faut que je prenne des médicaments.
Je pense qu'on peut trouver, si tu veux, aujourd'hui, je ne connais pas de bon médecin là-dessus, mais il y a quand même, moi j'ai le docteur Laurent, par exemple, qui est quelqu'un de très ouvert, qui est un neurologue. Il faudrait que je vois, si tu veux, parce que c'est un cas, il faut que tu consultes un spécialiste. Bien sûr, la schizophrénie, c'est une maladie.
Cette démarche, tu elle débouche sur quoi?
À 82 ans, c'est tard, c'est vieux pour être soigné.
Prendre conscience de ça à 82 ans, c'est très problématique. Nash a été soigné, mais il a pris des médicaments, j'imagine.
Il a pris des médicaments, mais si tu veux, il a même été interné à une période de sa vie.
Ce que ce suggère, c'est que cela pourrait aller jusqu'à mon internement, c'est ça?
Mais oui, donc c'est mieux que tu ne vois pas de spécialiste.
Pourquoi? Ah ben non, pourquoi? Il vaut mieux. Si tu veux, moi, je suis plutôt prêt à faire face aux choses. Alors, quand tu me dis une chose pareille...
Voir un spécialiste ouvert.
Voir un spécialiste, mais socialiste... Tu penses que ce spécialiste pourrait dire la première chose que vous devez faire, c'est être dans une hôpital psychiatrique, dans un bon climat où on puisse vous soigner, c'est ça?
Non, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus comme il y a 40 ans, heureusement.
Non, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Je pense, la schizophrénie est très difficile à soigner, si tu veux, mais il y a des médicaments, mais je pense que l'esprit humain peut s'élever au-delà d'une maladie mentale si on est un grand esprit. Et je pense que tu peux le faire. En gros, ma solution.
Alors, autrement dit.
Tu peux le faire tout seul, même à 83 ans.
Autrement dit, je souffre d'une maladie mentale, mais je pourrais m'élever au-dessus de cette maladie. C'est ça que tu me dis. Là, en quelque sorte, tu te fais l'écho de la communauté scientifique, parce que tu connais quand même plein de gens.
Bien sûr, je suis l'écho de la communauté scientifique. Je t'ai parlé de toi avec Kourinski, je t'ai dit, il y a déjà 20 ans.
J'ai eu
21 prix Nobel, quand même. Plus ceux dont j'ai été l'ami qui sont prix Nobel par la suite. Tu peux tout à fait faire des papiers scientifiques de très haut niveau intéressants pour illuminer les autres, et à la fois être un schizophrène ayant des hallucinations auditives et visuelles. C'est le cas de Nash, et c'est en partie, en programme, le cas d'Adam Ricourt. Et c'est tous les deux des gens que je respecte énormément au plan scientifique et qui ont fait des découvertes majeures. Donc, du moins, il faut séparer le papier scientifique par Jean-Pierre Petit de, on va dire, l'état mental de Jean-Pierre Petit. C'est deux choses différentes.
Il y a quand même quelque chose de contradictoire là-dedans. Parce que, si tu veux, voilà un type qui est un malade mental, Jean-Pierre Petit, mais qui publie des travaux qui tiennent debout. Je comprends plus. Mais
t'es pas le seul. Je viens de t'expliquer que dans un certain nombre de cas, tu as des gens comme Nash et d'autres qui ont fait la même chose, qui ont publié des travaux qui valent même mieux que toi, qui valent le prix Nobel et qui pourtant étaient des malades mentaux. Donc c'est normal. Enfin c'est normal. Ça arrive. Les grands scientifiques sont parfois déséquilibrés. Tu sais. Est-ce que tu connais la fin de vie de Kurt Gödel, par exemple, un des plus grands esprits de tous les temps, Kurt Gödel. Tu
Alors sais. Alors.
Bon. Eh ben Kurt Gödel, il est mort. Tu sais comment?
Non.
Il est mort de faim à la fin de sa vie. Il est mort de faim parce que il était tellement persuadé que le monde entier voulait l'empoisonner. Quand sa femme est partie à l'hôpital, elle l'a retrouvé, elle rentrait de l'hôpital, il était mort de faim. Voilà.
Non, donc, en quelque sorte.
C'est le plus grand magicien de tous les temps. Et il avait déduit, Kurt Gödel avait déduit d'un certain nombre d'indices faux, bien sûr. C'est ça le délire logique. Il avait déduit de trucs vrais, genre ta cicatrice sur le ventre, qui est un truc vrai. Il avait déduit des choses fausses, qui étaient qu'on voulait l'empoisonner. Il a fait du délire logique. Et il est mort de ça. Il est mort de ça.
Bon, alors.
C'est pareil pour toi. Il y a des dizaines de faire. Mais bon. Mais Thibaut d'Amour. Ok, revenons à Thibaut d'Amour. Alors, l'hypothèse numéro un, c'est l'hypothèse de la tienne. Jean-Pierre Petit, Thibaut Damour t'a envoyé une lettre, il y avait un truc mineur qui était dedans, je l'ai corrigé, je l'ai renvoyé, depuis, Thibaut Damour fait le sourd, et c'est scandaleux, et j'écris à tout le monde pour m'en plaindre, à l'Académie des sciences, à Jean-Claude Péquer, à d'autres, à Bréchignac, à tout le monde. Ok. Maintenant, autre hypothèse, imagine. Je sais pas, j'ai une hypothèse, hein.
Vas-y, je t'écoute,
conjecture. Je fais la conjecture suivante. Jean-Pierre Petit a fait un modèle qui contient une erreur. Thibaut Damour lui montre cette erreur. Jean-Pierre Petit, parce qu'il a un problème mental, bien qu'il soit génial, refuse évidemment d'abandonner le truc, corrige le truc, renvoie un modèle qui contient une autre erreur, évidemment, et Damour, évidemment, arrête de lui répondre parce qu'il sait que s'il te répond, tu lui renverras un troisième modèle avec une troisième erreur, et s'il te répond, tu lui enverras un quatrième modèle avec une quatrième erreur jusqu'à ta mort, et tu mourras en disant « J'ai répondu à Thibaut Damour, c'est vraiment un con, il n'arrive pas à me comprendre. » Donc c'est une conjecture. La conjecture, c'est que ton modèle est faux, qu'il est évidemment faux, et qu'un type comme Damour a vu que c'était faux, mais que toi, tu ne veux pas l'admettre, et que Damour n'est pas là pour faire un traitement psychologique avec quelqu'un qui a un problème mental qui s'appelle Jean-Pierre Petit. Et Damour a d'autres chats à fouetter, et donc tu ne réponds plus, et il a fait le grand honneur de te répondre une fois, et de t'envoyer un 100 en plus en lettre commandée. Voilà, ça c'est une conjecture, mais il faut l'envisager comme étant une possibilité.
Il y a une chose quand même qu'il faut reconnaître, c'est que les modèles de la physique, ils n'émergent pas 100% corrects.
Tu sais aussi qu'il y a beaucoup de théorèmes mathématiques qui, dans leur première publication, sont faux. Hein, simplement le type publie ça avec un peu d'enthousiasme et après il retouche. Donc si tu veux, le fait que des modèles se trouvent retouchés, on pourrait dire le premier exemple, c'est Einstein. Le premier qui a retouché un modèle cosmologique, c'est Einstein. Donc c'est quand même un droit.
C'est pas pour autant que t'es Einstein. Alors, c'est pas pour autant que toi, tu es
une nouvelle. Moi, ce qui me choque, c'est que j'ai écrit à tous ces gens-là, comme par exemple Damour et surtout Nathalie Ruel, en disant, écoutez, ce que je voudrais, c'est une heure avec vous dans une salle avec un tableau noir, sans témoin ni enregistrement. Tu vois? Et le fait que Damour n'accepte pas ce genre de proposition, est-ce que tu ne trouves pas ça choquant?
La version Damour, je suppose, je peux me tromper, la version Damour serait la version que j'ai développé dans la lettre, c'est-à-dire disant, écoute, on peut pas discuter avec Petit, c'est une perte de temps, tu lui montres ses erreurs, il les corrige, il en fait d'autres. Je vais aller rencontrer des gens de l'ITER avec un député européen, les gens de l'ITER sont même pas venus te voir, parce que pour eux, débattre avec toi, c'est pas possible, on ne débat pas avec Jean-Pierre Petit, ils sont pas allés te voir, tu te rappelles, ils t'ont posé un lapin, je te dis. L'impression que ça donne, c'est que tu envoies des lettres furibardes au monde entier dès qu'on te critique, et qu'à partir de ce moment-là, les gens ne veulent simplement plus parler avec toi parce qu'ils disent Jean-Pierre Petit, on peut rien faire. C'est l'hypothèse que j'ai dit, conjecture Thibaut Damour. C'est-à-dire que Thibaut Damour te répond pas, non pas parce qu'il est impoli avec toi, mais parce qu'il sait que te répondre ne sert plus à rien. Moi, j'ai pas peur sur un malade mental. Je pense que tu es un malade mental et un génie. Maintenant, un dernier détail. Quand moi, je pense, ça va te choquer, mais moi, je pense que c'est te rendre un service immense pour les gens qui te connaissent, bien sûr, en France et ailleurs, mais que c'est te rendre un service immense que de dire que tu es fou. D'accord? Je vais te dire pourquoi. Parce que quand je mentionne Jean-Pierre Petit, tu vois, je dis Jean-Pierre Petit, je dis juste ton nom. J'imagine, tu as Anne, j'imagine Jean en face de moi. Bon, il y a, sur son visage, tu as une expression d'horreur. Je dis, oui, mais attendez, bien sûr, je sais comme vous que Jean-Pierre Petit est complètement fou. Mais le problème, c'est que c'est aussi un génie, et que sur la MHD, sur le nucléaire, et peut-être sur la cosmologie, il a peut-être trouvé des trucs intéressants, et que ça mérite qu'on s'intéresse à lui. Voilà pourquoi faire l'acknowledgement, c'est-à-dire faire le premier pas en disant, mais oui, bien sûr, je sais comme vous que Jean-Pierre Petit est complètement fou, qu'il est taré, bien sûr, il est malade, il est schizophrène et tout ce que vous voulez, je sais pas, je suis pas médecin, mais Jean-Pierre Petit est un génie et il mérite d'être pris en compte malgré qu'il soit fou. Donc te présenter comme fou, c'est pour moi le plus grand service qu'on peut te rendre. Parce que c'est ça qui va permettre de passer la barrière de Jean-Pierre Petit, on discute pas avec lui. Alors, rappelle-toi, Kourilski, je peux donner son nom puisqu'il est mort, Kourilski m'a dit, mais Jean-Pierre Petit, mais c'est c'est même pas un cas pathologique, c'est au-delà. La façon dont tu te comportes te fait passer aux yeux de toute personne normalement constituée pour un fou, un malade, un dérangé, peu importe, on s'en fout des mots. Et donc, c'est un service à te rendre que de dire aux gens, bien sûr, Jean-Pierre Petit est fou, je le sais comme vous, qu'il est fou, Jean-Pierre Petit. Mais d'un autre côté, il est génial, et il faut quand même écouter ce qu'il dit. Voilà, donc pour moi, c'est le plus grand service qu'on puisse te rendre, en lui envoyant la copie des lettres que j'ai envoyées. Ah, voilà ce que je pense de Jean-Pierre. Je suis très embêté parce que moi, Jean-Pierre, je le prends au sérieux, je vous dis la vérité. Je pense que la plupart des gens qui côtoient Jean-Pierre Petit n'osent pas et ne lui diront jamais la vérité. C'est-à-dire qu'ils pensent que tu es fou, ils te le diront jamais. Moi, je te le dis parce que je suis ton ami. Oui. Moi, je te le dis parce que je suis ton ami. Les autres, ils te le diront pas. Parce que moi, je t'explique ça parce que je suis ton ami. Et je pense, et parce que je pense que c'est une bonne chose pour toi de dire aux gens, oui, Jean-Pierre Petit est fou. Bien sûr, je sais comme vous qu'il est fou. Mais par contre, c'est un génie, il faudrait aussi tenir compte de ce qu'il dit. Voilà. Et ça, pour moi, c'est te rendre un très grand service. Ah. Voilà. Je vais le dire à Luminé.
Alors, autrement dit, si tu as une confirmation de ton diagnostic, il faudra que je prenne rendez-vous avec un psychiatre. Quoi, c'est ça, hein?
Oui, mais bon, de toute façon, je pense qu'un rendez-vous avec un psychiatre serait pas mal. À mon avis, je pense que ça te coûte pas grand-chose. C'est remboursé par la Sécu si tu as une bonne Sécu. Je pense que tu peux le faire, franchement, entre les deux. Mais également, tu peux le faire. Hein, bon, on sait jamais. Oui. Va voir un psychiatre. Va voir un psychiatre. C'est jamais trop tard. Moi, je crois en l'esprit humain.